Bonjour Jean-Christian.
Bonjour Sarah.
Nous sommes à l'Office des tourismes de la Chapelle en Vercors à l'occasion de la mise en place de votre exposition Gréna et nous vous remercions de nous accueillir pour nous guider un peu.
Je remercie également l'Office du tourisme qui met à disposition ces locaux pour que je puisse mettre ces trois vitrines. Alors qu'est-ce qu'on voit dans ces vitrines ? Eh ben, j'ai installé trois tables vitrées de manière à présenter de façon assez condensée les grandes familles de Grenat. C'est une exposition sur ce silicate là et présenter donc ces différentes familles qui varient en fonction de ces compositions chimiques.
Alors on va aller tout doucement parce que peut-être tout le monde ne sait pas qu'est-ce que c'est un silicate.
Un silicate, c'est un composé minéral composé de silicium, d'aluminium et puis de tout un tas d'éléments supplémentaires comme le fer, le manganèse, le calcium, le chrome, le vanadium, le titane, enfin voilà. Et bien en fonction des combinaisons, la présence et l'absence de certains éléments, certains grenats sont franchement rouges, on le connaît, c'est sa couleur, on va dire, la prépondérante, la plus commune. Mais ce que je voulais également présenter, c'était montrer l'existence de grenats orange. Dès qu'il y a un élément comme le manganèse, par exemple, ça les teinte plutôt en orange. Quand il y a des éléments comme le vanadium, le titane le teinte en noir. Le chrome le teinte en vert. Et ces éléments-là, ces couleurs-là, évidemment, sont dépendantes de la roche dans laquelle ils cristallisent. C'était ça aussi que je voulais expliquer à travers cette exposition, c'est de montrer que les couleurs changent en fonction de l'endroit où cristallise le grenat.
Et on peut s'intéresser à ces processus de cristallisation. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une roche cristallise ?
Alors, deux sortes de cristallisation, c'est ce que je voulais mettre en évidence. Ça sera un peu dense dans cette exposition pour aborder ce sujet, mais il y aura des petits panneaux explicatifs pour expliquer que le grenat, on peut le trouver dans des roches magmatiques, c'est-à-dire issues de la cristallisation d'un magma, donc quelque chose qui est liquide et qui finit par se figer. Ça, c'est une cristallisation de roches magmatiques. Ces roches-là, elles peuvent arriver en surface comme les roches volcaniques ou cristalliser en profondeur comme les granites, comme les roches plutoniques. Ou alors, il y a des cristallisations à l'état solide, et ça, c'est ce qu'on appelle les roches métamorphiques, où toutes les transformations ont lieu à l'état solide. C'est juste des migrations d'éléments dans les roches et le rôle très important de la déformation aussi dans ces roches qui fait que les transformations minérales se font à l'état solide.
La cristallisation donne des formes très très différentes à toutes ces roches. Comment pourquoi la cristallisation elle s'est traduite en des formes aussi différentes?
La principale raison, c'est les contraintes qui sont amenés à subir les grenats, parce que dans un magma où les premiers cristaux qui se forment sont les grenats, il va pouvoir prendre sa forme naturelle dans sa meilleure expression, puisque ça va être le premier à cristalliser dans un jus liquide. Il prend toute la place, il prend la place qu'il veut dans la mesure de la composition chimique, mais en tout cas il n'a pas de contraintes, et ça sera l'objet d'une des vitrines, c'est de montrer leur forme naturelle. Il y a deux formes.
Vous avez aussi mis des petits manufacts en carton pour faciliter la compréhension de la forme de la pierre au public.
Absolument, j'ai présenté donc les deux formes principales matérialisées par un petit modèle en papier carton rouge et puis un autre en jaune.
On peut les dire, ces noms difficiles de polyèdres qui vont nous rappeler les cours de géométrie de l'école.
Oui, on peut, bien sûr, on peut dire. La forme de base est la plus commune pour le grenat, c'est la forme avec que des faces losangiques, ce qu'on appelle le rhombododécaèdre, donc 12 faces losangiques, idéalement de surface égale. Enfin, on verra, on peut voir qu'elles peuvent être de dimensions différentes, mais c'est surtout la symétrie qui est très importante et qui est respectée, puisque que ce soit l'une forme ou l'autre, ce minéral, le grenat, appartient au système cubique. Il cristallise dans le système cubique. Et puis alors l'autre forme, la forme B, qu'on appelle l'icositétraèdre. Alors là, c'est 24 petites faces, toutes identiques. Et ce qui est très intéressant sur l'exposition, c'est ce que je voulais aussi montrer, c'est montrer que dans la plupart des cas, il y a aussi les formes combinées de ces deux formes. On trouve une forme dominante de rhombododécaèdre avec des troncatures aux arêtes qui font apparaître...
Avec des...
Ça s'appelle des troncatures, des petits biseaux sur chaque arête qui donnent vraiment l'impression que la roche, que le minéral a été faceté. Ça a rajouté des facettes supplémentaires. Et c'est pour ça que j'ai rajouté des petits dessins, parce que c'est en même temps très explicatif, à côté des échantillons qui sont présentés, et de montrer qu'un grenat a une dominante d'une forme, et par l'apparition de ces petites facettes supplémentaires, migre vers la forme numéro 2. Et inversement, on a l'inverse, on a le l'icositétraèdre qui peut aussi montrer des formes de la face, comment dire, du modèle rhombododécaèdre. Et ça fait voilà, ce genre de petits modèles là, avec des faces toujours pareilles, supplémentaires, qui donnent vraiment l'impression que la pierre a été facetée.
Et donc c'est un processus très complexe, qui nous apparaît très complexe, mais combien de temps ça prend pour former une pierre comme celle-là? Par exemple, je vois les grenats alumineux de Fort Wrangell en Alaska, qui est assez impressionnante pour sa forme et donc pour les très grand nombre de facettes. Combien de temps ça prend pour former cette pierre?
Ça, c'est toujours la grande question à laquelle il n'est pas facile de répondre. Le temps de cristallisation et de transformation d'un silicate en un autre, ce qui est sûr, c'est que c'était en dizaines, voire centaines de milliers d'années. Là, on a des roches qui peuvent être datées à plusieurs centaines de millions d'années. Et elles ont elles-mêmes subi des transformations au cours de leur histoire. Donc, tous ces événements, en aucun cas, il y a des cristallisations spontanées. L'échelle de temps nous dépasse. Pour certaines roches, par exemple celle de la vitrine numéro 1, par exemple, où je présente les familles de grenats, ces deux roches, par exemple, les roches qui présentent les grenats les plus riches en magnésium, sont présentées comme les roches issues de cristallisation à très très forte profondeur, qui sont trouvées dans les Alpes et dans le massif armoricain, des roches qui ont cristallisé à plus de 50 km de profondeur à un moment donné dans l'histoire de la chaîne de montagne, qu'elle soit armoricaine ou alpine. Ce sont des roches qui ont été portées à un moment donné à une très très grande profondeur. Des cristaux de grenat peuvent se former à ce moment-là à très grande profondeur. Le fait d'être dans certaines roches et dans ces conditions, ils sont très riches en magnésium. Et puis ces roches remontent en surface. Une fois que les contraintes maximales sont passées dans l'histoire de ces formations de chaînes de montagne, à un moment donné, il y a une exhumation de ces roches. Et l'histoire...
Exhumation naturelle, c'est-à-dire que naturellement, elles remontent en surface.
Tout à fait. Y compris par les phénomènes d'érosion aussi, qui décapent les reliefs créés à ce moment-là. Et l'histoire du grenat est donc pas finie, puisque de très grande profondeur, il remonte, et à son tour, lui, il subit des transformations qui l'amènent à se transformer, voire à se déstabiliser. Il peut aussi finir par disparaître. On a une roche sous les yeux, là, par exemple, entourée d'une petite auréole noire. Chaque grenat a subi un phénomène de déstabilisation Ils sont encore présents dans la roche, mais ils ont commencé à se déstabiliser. C'est cette fameuse petite couronne noire qui les entoure, comme si on était venu les entourer avec un feutre noir. Mais c'est une réaction de déstabilisation.
Donc, une roche stable, c'est une roche qui n'échange pas de forme.
On va parler de métastabilité, parce que beaucoup de ces roches-là, à notre échelle de temps, nous, il ne se passera plus rien. Elles sont dans ces vitrines, tout le temps de l'exposition, et dans 50 ans, elles seront toujours là.
Donc, pour simplifier, on peut dire qu'elles sont stables à nos yeux, parce que nous, on est petites choses dans les temps face à la vie très longue de ces roches.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Sous mes yeux, il y a plein de noms de lieux géographiques différents et très loin entre eux. Je vois les États-Unis, les Nigeria, les Brésil, les Pérou, la Russie. Comment vous avez collecté toutes ces roches d'origine très différente?
Alors, pour une partie, il y a une collecte personnelle. Il y a aussi des échanges, des achats. Et là, c'est le résultat d'une collection depuis plus de 45 ans, en fait. Je m'intéresse à la minéralogie. C'est ce qui m'a amené à la géologie. Et puis.
Parce qu'on va donc un peu parler de vous, peut-être. Vous êtes géologue.
Absolument. Je suis géologue. Alors, géologue, il faudrait préciser. Parce que, alors, il y a toute une panoplie de diversité dans la géologie. Mon domaine de spécialité, c'est plutôt les chaînes de montagne. Ce sont les chaînes de montagne. Donc je suis géologue, je fais géologie structurale, pétrologie, c'est-à-dire l'étude des minéraux dans les roches, et qu'elles soient magmatiques ou métamorphiques.
Et ce n'est pas que à travers votre passion de la géologie que vous traitez les pierres, parce que vous êtes aussi passionné de bijoux en pierre.
Ah oui, depuis quelques années, j'ai basculé vers cette activité de transformation de roches et minéraux, pas seulement minéraux, mais également roches, justement aussi pour communiquer sur les sciences de la Terre. Je trouve que c'est un bon moyen de les exposer, de les polir, et pourquoi pas, pour les plus jolies, de les monter en bijoux.
Et donc, vous avez votre boutique à la Chapelle en Vercors. Est-ce que les gens ici arrivent à se passionner à cette question des pierres? Est-ce qu'ils sont curieux, curieuses?
Bien sûr, oui, je rencontre plusieurs, et puis de tout âge, c'est ça qui est amusant. Et c'est vrai que l'activité de taille de pierre et de création de bijoux m'a montré que c'était un bon moyen pour communiquer sur les sciences de la Terre. Parce que j'ai vraiment des tout petits qui viennent et qui posent des questions et qui viennent tripoter les cailloux dans l'atelier. Et puis des personnes de tout âge. Qui présente. Moi, je tiens vraiment à présenter aussi à chaque fois que je peux les roches brutes et les roches transformées, les minéraux bruts et les minéraux taillés. Toutes ces pierres, elles proviennent de multiples sites que je ne connais pas tous, hein, d'ailleurs. Il y en a que je connais, il y en a qui sont, je dirais presque inaccessibles. Hein. Je ne parle pas forcément parce qu'ils sont en Russie, mais parce que ce sont dans certains, c'est des sites miniers. Il y a des découvertes qui ont été faites dans le cadre minier. Il y en a qui ont été faites dans le cadre simplement de sites en montagne, des éboulis. Des galets de rivière, ça peut être dans des champs, ça peut être, enfin, tout est possible.
Et comment on fait pour sensibiliser le public à la question de la traçabilité des pierres et de l'exigence qu'il faut avoir pour ne pas être prédateur dans ces domaines-là?
Alors là, il y a plusieurs points, il y a plusieurs questions. À l'origine, Cette exposition-là, je l'avais montée dans un département du sud de la France, dans les Pyrénées-Orientales, justement pour attirer l'attention sur ce problème de traçabilité des pierres. C'est un département dans lequel il y a une activité de bijouterie autour du grenat, et selon une tradition catalane. Et là, il y a une communication à outrance autour du grenat. Et je voulais montrer l'origine et la qualité des grenats de ce département par rapport à ce qui était travaillé. Et là, on se rend compte tout de suite qu'en fait, il y a un abus de langage dans ce département. Il y a tout un groupe d'artisans bijoutiers qui ont pignon sur rue, qui disent travailler le grenat catalan, alors que le grenat ne vient pas de la région. Et ça fait même belle lurette qui ne vient plus de la région. Il arrive importé de l'étranger, taillé, et il n'est plus que monté dans des ateliers.
Donc ça fait un peu comme les petits bibelots gondoles qu'on trouve à Venise qui sont produits en Chine.
Oui, c'est absolument ça, tout à fait. Et venant des Pyrénées-Orientales à l'origine, j'ai grandi là-bas, ça finissait par un peu m'agacer cette tradition, parce qu'on finit par croire, enfin, un Catalan finit par croire que les plus beaux grenats du monde sont dans ces montagnes et qu'il ne connaît pas le reste des grenats. Donc j'ai voulu replacer un petit peu le grenat au centre et j'avais laissé cette exposition pendant plusieurs années. Moi je remets en cause l'idée qu'il ait pu être extrait même du département. Il n'y en a jamais eu de traces dans les archives. Par contre, il y a effectivement beaucoup de gisements, mais de grenats de qualité minéralogique, de qualité géologique. Le grenat est un minéral commun.
Donc, pas les minérales qu'on veut pour faire un bijou.
Tout à fait. Il ne faut pas confondre grenat et grenat. Le grenat est un minéral commun, on en trouve vraiment de façon abondante, mais il peut être rougeâtre, avec tout un tas d'impuretés, et absolument sans intérêt pour la joaillerie. Absolument sans intérêt. Et il ne faut pas confondre avec un grenat de qualité joaillerie qui est trouvé sur certains gisements à Madagascar, République tchèque, massif de Bohême par exemple, est historiquement connu. Alors certes, de très très bonne qualité, dans certains gisements peuvent finir par être épuisés, bien sûr. Mais sinon, le grenat lui-même, il est tellement abondant, il a une composition tellement banale. Il ne faut pas oublier, hein, c'est un silicate. Silicium, aluminium, fer, magnésium. C'est des éléments qui sont très abondants dans la croûte. Et dès qu'on est dans un massif ancien, comme le massif central, le massif armoricain, les Vosges, les Alpes, dès qu'on est dans des roches silico-alumineuses et que la roche a subi un certain métamorphisme de moyenne température, moyenne pression.
Quelle est la température moyenne du métamorphose? Ça peut nous intéresser.
Je dirais le grenat, c'est ce que j'ai mis sur un petit panneau explicatif. Il est stable, moyennant des variations de composition. Il est stable dans quasiment dans tout le domaine, dans tout le champ pression-température qu'on connaît dans la croûte terrestre. Donc, à partir de là, on le trouve dans toutes les roches. Et comme il est très résistant à l'érosion, il a une dureté de 7 et au-delà de 7, il résiste et on le retrouve jusque dans les sables.
Comment on mesure? Parce que ça vous semble très logique, mais peut-être, nous, on ne sait pas comment on mesure la dureté des pierres. Là, vous venez parler d'une dureté 7, 8?
Oui. Alors, on utilise une échelle de 1 à 10, et c'est une échelle relative. Donc on va dire que le 10 étant le plus dur, c'est le diamant, le 1 le plus tendre, le 10 raye les minéraux de dureté 9, qui raye les minéraux de dureté 8, et ainsi de suite. Et le 1,
donc on peut dire que les grenats est une roche assez dure.
Le grenat est une roche dure. Le grenat est une roche, comme toutes les pierres utilisées en joaillerie, c'est à chaque fois des minéraux, la plupart du temps, qui sont au-delà de 6. C'est 7, 8, 9 et 10 le diamant. Mais le saphir, rubis, c'est 9. Vous voyez. Donc, et le grenat, forcément, on disait tout à l'heure, on le trouve dans tout un éventail très large de pressions et de températures dans les roches métamorphiques, résistant à l'érosion, résistant à l'abrasion. On va le retrouver dans les sables lourds des cours d'eau et les plages.
On peut regarder ces fragments qui sont dans une petite bouteille. J'ai dit sable lourd à grénat.
Oui, absolument. C'est un placère littoral, ça s'appelle comme ça. Une zone où se sont concentrés naturellement, où se concentrent naturellement après chaque grande marée, parce que là, ça se passe sur une plage dans le sud du massif armoricain. À chaque grande marée se reforme ce gisement de sable lourd, alors pas seulement de grenat, mais tous les minéraux lourds s'y concentrent, des oxydes de fer, des amphiboles, enfin tout un tas de silicates denses qui ont la densité comme le grenat. Globalement, il y a une dominante de silicates rouges, effectivement de grenat, dans ce sable.
Merci. Donc vous nous avez donné beaucoup, beaucoup d'informations et vous nous avez montré votre souci de la pédagogie dans la mise en place de cette exposition. S'il y avait une chose plus importante que d'autres qu'il faudrait retenir en sortant de cette expo, quelle serait la chose qui vous tient le plus à cœur de transmettre?
La première, c'est de retenir que c'est une grande famille, le grenat, et qu'on le trouve de toutes les couleurs. Toutes les couleurs, vraiment toutes les couleurs. On le trouve dans toutes les roches, absolument toutes les roches. Et le fait de pouvoir changer de composition chimique, de pouvoir avoir des éléments qui se substituent les uns aux autres, peut expliquer cette grande adaptabilité à son environnement. Parce qu'une roche... ce qu'il faut absolument, c'est du silicium et de l'aluminium. Mais à partir du moment où vous avez du calcium, du chrome, du fer, du magnésium, du manganèse, il peut apparaître. Et ensuite, il y a tout un tas d'éléments qui peuvent se substituer les uns aux autres. Et il peut aussi varier au sein même d'un cristal de composition. Il peut naître au cœur avec une certaine composition et finir sa cristallisation avec une autre composition. Donc voilà, je voudrais qu'on retienne ça, une grande famille. Et puis aussi, la vitrine principale, c'est celle où je montre les formes minérales, les formes cristallines naturelles. Il appartient au système cubique. Il ne fait jamais de cube. Il fait des rhombos dodécaèdres et des icositétraèdres, des formes à multiples facettes.
Merci. Donc il nous reste que à inviter les personnes. Donc il est possible de voir cette expo comment?
Eh bien, à l'Office du tourisme, en fonction de son horaire d'ouverture. Donc les horaires d'ouverture, vous pouvez les avoir sur le site internet de l'Office du tourisme. Et puis à partir des vacances qui approchent, ça sera le matin, tous les jours, sauf le dimanche.
Et jusqu'à quelle date?
Pour l'instant, la date est fixée à fin janvier 2024. Et puis on verra en fonction de l'affluence, comment les choses se passent, comment... L'exposition est accueillie par le public.
Merci beaucoup, Jean-Christian.
Merci, Sarah.